L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, hein, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarca, patrie, patriarca,
patrie. Et donc, nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, dans une émission de Sortir du patriarcapitalisme, une critique radiophonique du patriarcat, du sexisme et des oppressions liées au genre et aux sexualités, et ce, dans une perspective intersectionnelle, anticapitaliste et antiraciste. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler d'intersectionnalité avec Raphaëlla et Sophia, qui s'intéressent à ce sujet depuis un certain temps. Donc bonjour, Sophia et Raphaël.
Bonjour. Bonjour.
Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait cette émission? Bon, déjà, parce que c'est un peu dans le sous-titre de cette émission et du coup, il fallait faire un peu une mise au point. Parce que l'intersectionnalité est un mot qui marche très fort, qu'on retrouve un peu partout, des cercles militants, aux institutions internationales, et qui est souvent et ce concept d'intersectionnalité, qu'il soit critiqué ou qui soit brandi comme un étendard, est souvent mal compris, notamment en France, et est identifié à tort à tout un tas de choses. Alors, parfois, ça va être à une théorie antiraciste qui critiquerait le féminisme blanc. Une analyse de l'addition des oppressions ou des discriminations, à la convergence des luttes, à une revendication identitaire des femmes racisées. Voilà, tout un tas d'usages de ce concept d'intersectionnalité qui sont problématiques. Et justement, le but de cette émission, c'est de dégrossir ce concept, de montrer à la fois ce qu'il signifie de manière générale et en même temps toutes les différentes théories de ce concept, toutes les critiques qui ont été faites de ce concept. Et l'idée, ce sera dans cette émission aussi de répondre à certaines critiques, notamment lorsqu'elles sont illégitimes ou basées sur une lecture trop rapide des textes sur l'intersectionnalité. Et puis, dans une dernière partie, on abordera la question des usages militants de l'intersectionnalité. Comment faire un bon usage, entre guillemets, de l'intersectionnalité qui soit très éloigné de ces usages les plus conservateurs ou néolibéraux, quelque chose dont on parlera tout au long de cette émission. Alors, peut-être pour commencer par une définition, ce qui m'a intéressé dans le concept d'intersectionnalité, c'est une théorie ou un ensemble de théories qui permet d'articuler différents systèmes de domination, le racisme, le patriarcat, le capitalisme, sans faire une théorie unitaire où finalement on réduit tout au capitalisme et le racisme et le sexisme s'explique par là, voilà, comme par exemple dans le marxisme de manière générale, ou sans non plus émietter les oppressions en disant que finalement elles n'ont absolument rien à voir et que finalement on peut très bien combattre le patriarcat en étant néolibéral, combattre le racisme en étant pro-capitaliste, ou que finalement la révolution socialiste va résoudre tous les problèmes de racisme et de sexisme. Et du coup, dans ce concept d'intersectionnalité, il me semblait qu'il y avait un entre-deux intéressant.
Oui, je trouve que tu as raison de parler de multiplicité des rapports sociaux dans l'analyse parce que, pour moi, au sens où je l'entends, parler d'intersectionnalité, c'est tout d'abord proposer une analyse sociale qui ne soit pas uniquement unidimensionnelle. Par exemple, tu l'as dit, une analyse marxienne en termes de classe, traditionnellement parlant, mais bien une analyse pluridimensionnelle qui, au contraire, met en avant les dynamiques entre différents positionnements sociaux. Pour prendre un exemple concret, les femmes au sein du mouvement ouvrier au 19e et au 20e siècle, qui se sont battues pour la reconnaissance des interactions entre les rapports sexués et les rapports de classe auxquels elles étaient soumises. Après, au vu de son succès académique, de ses nombreux usages, au sein de différents contextes disciplinaires, historiques, géographiques, militants, etc., il est difficile de proposer une définition de l'intersectionnalité qui soit unique ou unitaire. Et donc, selon moi, c'est d'abord un concept caméléon dont la finalité est donc de montrer la pluralité, l'articulation, l'imbrication des rapports de pouvoir et de domination qui structurent nos sociétés. Et c'est pour ça qu'on trouve toute une série de termes associés au terme intersectionnalité. Donc, par exemple, l'intersectionnalité comme matrice de domination, qui est une définition que Patricia Hill Collins avait proposée, mais aussi en termes de système de domination imbriqué et en interaction, ou alors en termes de consubstantialité des rapports sociaux, qui serait plus orientée vers les théoriciennes françaises de l'intersectionnalité. Et pour finir, une caractéristique qui, pour moi, est aussi un problème de l'intersectionnalité, par-delà le fait que ce soit un terme vraiment protéiforme et pluriel, c'est aussi qu'il n'y a pas de distinction, quand on parle d'intersectionnalité, entre l'objet de recherche et l'outil de recherche. Donc on parle d'intersectionnalité comme une réalité sociale, l'existence de rapports sociaux de domination qui soient imbriqués et donc à analyser, non pas de manière segmentée, mais ensemble, et aussi l'approche ou la méthode qui permet d'analyser cette réalité en termes pluriels, multiples et complexes.
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ton dernier point. Pour moi, ça me fait penser à la différence entre l'intersectionnalité à un niveau micro et à un niveau macro. À un niveau micro, il s'agirait de comprendre la spécificité de l'oppression subie par une personne qui se situerait à l'intersection de plusieurs systèmes de domination. Et au niveau macro, il s'agirait de comprendre les structures, enfin les relations, les interdépendances entre les structures de domination elles-mêmes. Et aussi, je voulais rebondir sur ton premier point, sur le fait que l'intersectionnalité, c'était pas une addition des oppressions. Et quand tu prends un point de vue micro, l'intersectionnalité, effectivement, c'est pas parce qu'une femme racisée, prolétaire, va subir trois oppressions différentes, mais plutôt que ces trois systèmes d'oppression que sont la race, la classe et le genre vont former une espèce de synergie pour que cette femme souffre d'une oppression intersectionnelle, dans le sens où il s'agira d'une oppression résultant de la synergie des trois systèmes de domination.
Oui, ça c'est intéressant, effectivement, l'exemple effectivement des femmes noires prolétaires, et on verra d'ailleurs tout au long de l'émission que c'est notamment de leur expérience que a été tirée la théorie de l'intersectionnalité. Parce que finalement, ce que permet la théorie de l'intersectionnalité, c'est de voir que ces femmes racisées prolétaires ne doivent pas leur situation, leur vécu d'oppression, à, comme dans la théorie marxiste, à une seule oppression qui serait l'oppression de classe, et finalement tout le reste serait secondaire, ne serait pas lié non plus à l'addition de ces trois oppressions, c'est-à-dire qu'elles subiraient l'oppression des femmes blanches plus des hommes noirs, plus des hommes, des ouvriers blancs, mais en fait que les trois systèmes d'oppression s'imbriquent entre eux et font que en fait elle va être encore plus opprimée qu'une femme blanche, qu'un homme noir ou qu'un ouvrier blanc.
Après, je ne sais pas si l'intersectionnalité ça permet de dire qu'elles sont plus opprimées ou pas. Pour moi, l'intersectionnalité ça permet de dire que quand un homme blanc va avoir des rapports avec une femme noire, enfin, un homme blanc bourgeois, mettons, avec une femme noire prolétaire, le rapport unique qu'ils vont entretenir va exprimer une domination de race, de classe et de genre. Et du coup, si par exemple un homme blanc emploie une femme noire, au sein de leur rapport, au sein de leur rapport de travail, des oppressions intersectionnelles vont être trouvées. Mais c'est pas, effectivement, à la fois la femme noire va subir des oppressions de genre vis-à-vis des hommes, de race vis-à-vis des hommes blancs, etc. Mais je pense que aussi un même individu, de fait de l'existence du système de race, de classe et de genre, va opprimer une autre individu, une femme noire en l'espèce, via ce prisme-là.
Oui, pour rebondir sur ce que tu disais, on n'a pas parlé du grand nom de l'intersectionnalité pour l'instant, donc Kimberlé Crenshaw, qui a proposé donc une métaphore de l'intersectionnalité comme un carrefour routier dans lequel les différents axes de circulation représenteraient des axes d'oppression. Et ce qui est intéressant dans la théorie qu'elle propose, c'est qu'elle propose un triptyque. Donc il existe trois formes d'intersectionnalité. Donc celle que tu décris, l'intersectionnalité structurelle qui fait que dans les rapports qu'on entretient, les interactions sociales, mais aussi les politiques publiques, etc., il y a donc une intersectionnalité structurelle qui fait que certaines personnes sont, par exemple, discriminées, non seulement en vertu de leur sexe ou de leur âge, mais aussi de leur race. Par exemple, Crenshaw, elle donne l'exemple des femmes qui cherchent un refuge dans les structures publiques d'accueil pour lutter contre la violence domestique. Et elle dit que ces structures ne sont pas du tout adaptées aux femmes migrantes ou aux femmes qui ne parlent pas la langue, par exemple, du pays. Ensuite, elle propose une définition, et là, on a parlé beaucoup d'oppression et de domination subie, mais elle propose aussi une définition de l'intersectionnalité comme un outil politique, en fait. Donc, comme un moyen de lutter contre l'invisibilisation, on peut utiliser ce terme, de certaines minorités dans des minorités. Donc, elle donne l'exemple des mouvements antiracistes aux États-Unis qui sont des mouvements majoritairement masculins, ou bien des mouvements féministes qui sont des mouvements majoritairement blancs, petits bourgeois, etc., qui l'étaient de manière très majoritaire dans les années 80 et dans les années 90 aux États-Unis. Et donc, elle parle de l'intersectionnalité comme un outil politique pour donner une voix, une figure et de la visibilité à ces minorités dans les minorités. Donc, l'intersectionnalité n'est pas seulement, on en parlait tout à l'heure, une réalité subie, mais aussi un outil qui peut être un outil militant. Et enfin, elle parle d'intersectionnalité représentationnelle, même si elle ne le dit pas dans ces termes. Et donc, avec l'intersectionnalité représentationnelle, elle explique que certaines ou beaucoup de nos représentations, qu'elles soient culturelles, médiatiques, etc., véhiculent des stéréotypes qui sont des stéréotypes intersectionnels puisqu'ils mettent en scène les rapports de pouvoir et de domination entre sexe, classe, race, etc., etc., donc entre différents axes de domination, de privilèges et de désavantages.
Mais finalement, j'ai l'impression que l'intersectionnalité politique et représentationnelle dont tu parlais, telle que théorisée par Crenshaw, ça donne la grille de lecture pour analyser ensuite les oppressions subies. Enfin, finalement, ça permettrait, les deux intersectionnalités permettraient l'une d'être l'outil d'analyse de l'autre.
Oui, le problème, exactement, mais le problème, c'est d'avoir un terme unique pour deux réalités différentes, puisqu'on ne sait plus, quand on parle d'intersectionnalité, si on parle de la réalité de fait ou de l'instrument d'analyse.
Oui, d'ailleurs, c'est une des critiques que fait par Elsa Dorlin, dont on va parler dans la deuxième partie d'émission, justement sur le fait qu'il y a une... Elle dit qu'il y a une forme d'hésitation. Mais après, finalement, c'est à la fois une des faiblesses de l'intersectionnalité et une de ses forces, parce que précisément, elle peut être l'intersection, pas juste des oppressions ou une intersection analytique ou une oppression... Ça peut être tout en même temps, quoi.
Et aussi, vu qu'il y a ces dualités, ça a permis à la fois au mouvement afroféministe de théoriser leur intersectionnalité et au mouvement post-structuraliste de théoriser leur facette de l'intersectionnalité. Et finalement, c'est Bilge qui parle de cette nécessaire imprécision de l'intersectionnalité qui a justement permis son développement.
Oui, et aussi la popularité du concept...
Oui, même si, il faut le dire, certains auteurs se défendent de l'usage du terme intersectionnalité. Si on pense par exemple à certains auteurs consubstantialistes qui utilisent le terme consubstantialité des rapports de pouvoir et non pas intersectionnalité, donc pour se distinguer et pour formuler une critique à l'égard de l'intersectionnalité. Tout comme certains auteurs, notamment les féministes noires, revendiquent l'usage de l'intersectionnalité comme un concept qui nécessairement est un concept qui tourne autour de la race. Donc de la race comme catégorie d'analyse, catégorie critique, etc. En expliquant que si on vide l'intersectionnalité de ce concept de race, alors on vide le pouvoir critique du concept d'intersectionnalité lui-même, puisqu'on n'aboutit plus du tout à une critique intéressante des rapports de domination qui structurent notre société, quoi.
Et d'ailleurs, par rapport à ça, tout à l'heure, je parlais des usages, disons des groupes qui se revendiquent de l'intersectionnalité, des groupes militants notamment, et des groupes qui s'en défient. Et notamment de la part des groupes qui s'en défient, il y a toujours l'accusation récurrente que non mais l'intersectionnalité en fait ça oublie la classe. Parfois il y a, j'ai trouvé aussi dans certains textes, l'accusation plutôt de théoriciennes que ça oublierait le genre. Ça c'est une critique par exemple qu'on trouve chez des féministes matérialistes québécoises, ou alors qu'on oublie la race. Donc finalement un peu, enfin, l'enjeu autour de l'intersectionnalité, c'est que tout le monde a un peu peur qu'on oublie son oppression, entre guillemets, ou l'oppression qui lui semble la plus importante, la plus déterminante. Peut-être qu'il y a évidemment une partie des théories intersectionnelles qui insistent plus, par exemple celles qui sont peut-être un peu moins critiques du capitalisme, qui vont plus insister sur le genre et la race. Pour ce qui est de l'intersectionnalité, qui est assez proche de la consubstantialité, de la théorie de la consubstantialité des rapports sociaux, eux, ça va plutôt être la race qui va quand même être un peu plus secondaire, et quand même la classe et le genre qui, historiquement en tout cas, vraiment été plus important. Mais en même temps, l'intersectionnalité à laquelle, on se rattache dans cette émission, elle cherche pas à hiérarchiser les différentes formes d'oppression.
Oui, je pense que la manière dont on parle d'intersectionnalité, en tout cas ici et maintenant, c'est aussi comme un terme fédérateur, un peu englobant, pour aussi comprendre non seulement toute l'épistémologie qu'il y a derrière ce concept, mais aussi englober différents usages du terme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on utilise le concept d'intersectionnalité, nécessairement, puisque de par l'histoire et la trajectoire de ce concept, on s'en réfère au féminisme noir qui est à l'origine de ce concept. Et donc, c'est aussi une manière de rendre hommage et aussi de reconnaître toutes les fondations théoriques qui ont été posées par le black feminism, et donc tous les apports théoriques sans lesquels l'intersectionnalité aujourd'hui n'aurait pas existé. Mais évidemment, en parlant d'intersectionnalité, on fait aussi référence à beaucoup d'autres théories qui, indépendamment de ce contexte précis, géographique et historique, se sont développées, par exemple en Europe ou ailleurs, des théories postcoloniales qui ont aussi posé les fondements pour l'analyse intersectionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Oui, exactement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et même quand on pense à l'histoire de l'intersectionnalité ou de l'afroféminisme aux États-Unis, il arrive parce qu'il est en opposition au féminisme blanc et au sexisme noir, noir et blanc, mais aussi noir des Black Panthers, du mouvement des droits civiques. Et du coup, je pense que quand tu penses l'intersectionnalité comme une réalité historique qui est apparue nécessaire d'abord au Combahee River Committee, mais ensuite à toutes les féministes aux afroféministes, ça permet aussi de peut-être repenser entre guillemets l'égalité de tous les systèmes d'oppression les uns les autres, mais comme des réalités également entre guillemets subies par ces femmes-là qui ont estimé nécessaire justement à cette théorisation.
Oui, et justement, puisqu'on parlait du Combahee River Committee, collectif, c'est un petit peu, pas les origines, parce qu'il y a évidemment d'autres groupes ou d'autres penseurs avant qui ont théorisé un peu cette imbrication des systèmes d'oppression. Mais je voudrais juste lire une longue phrase de leur manifeste. La définition la plus générale de notre politique actuelle peut se résumer comme suit. Nous sommes activement engagés dans la lutte contre l'oppression raciste, sexuelle, hétérosexuelle et de classe, et nous nous donnons pour tâche particulière de développer une analyse et une pratique intégrée basée sur le fait que les principaux systèmes d'oppression sont imbriqués. Enfin voilà, la fin évidemment est importante pour notre émission, puisque c'est l'idée que ces féministes noires, lesbiennes et prolétaires subissent donc quatre oppressions, et elles veulent lutter contre ces quatre oppressions, mais elles précisent bien qu'elles n'entendent pas lutter contre ces quatre oppressions séparément, comme des réalités séparées, mais comme des systèmes d'oppression imbriqués. Et justement, puisqu'on arrive sur la question de l'afroféminisme, il faut rappeler que l'afroféminisme a consisté notamment dans une relecture de l'histoire et dans une visibilisation de l'histoire spécifique des femmes noires, en l'occurrence aux États-Unis et pour la majorité prolétaire. Et quand tout à l'heure je voulais dire qu'il y avait une oppression supplémentaire, c'est évidemment pas pour dire qui est le plus opprimé, mais pour dire qu'il y avait quelque chose en surcroît dans l'oppression des femmes noires prolétaires qu'il n'y avait pas dans l'oppression des ouvriers blancs, dans l'oppression des femmes blanches et dans l'oppression des hommes noirs. Et donc pour justement partir de la figure historique qui est étudiée par le black féminisme, la figure des femmes esclaves, en plus de, comme les femmes blanches, de devoir faire le travail domestique, voire faire l'ensemble, disons, du travail domestique, travail sexuel, travail procréatif, demandé historiquement et structurellement par les hommes blancs aux femmes blanches, en plus de subir le travail dans les champs, les humiliations, les persécutions liées à l'esclavage comme les hommes noirs, et en plus d'avoir la condition générale des esclaves, quelle que soit leur race, même si là en l'occurrence c'était des esclaves noirs, il y a par exemple le fait de devoir procréer pour permettre la reproduction du système esclavagiste. Il y a les viols non seulement de la part des hommes noirs, mais aussi de la part de leurs maîtres. Il y a une espèce d'expérience additionnelle de l'oppression, même si j'ai bien conscience que ça n'épuise pas la question de l'intersectionnalité, mais c'était juste pour préciser ce que j'entendais par ce surcroît d'oppression.
Après, moi, je dirais une expérience additionnelle, mais aussi une expérience singulière, dans le sens où même l'oppression subie par des femmes noires vis-à-vis des hommes noirs, l'oppression subie par les femmes noires vis-à-vis des hommes blancs n'est pas la même que celle subie par les femmes blanches vis-à-vis des hommes blancs et par les femmes blanches vis-à-vis des hommes noirs. Donc je pense que même si c'est pas en termes d'addition, en termes de singularité, je pense que c'est important d'insister sur le fait que l'intersectionnalité permet justement l'analyse de la spécificité des expériences, à la fois des expériences vécues et du système de domination, quand on prend en compte les différents systèmes d'oppression de manière synergique.
Moi, je trouvais qu'il y avait une bonne formule pour résumer, un bon triptyque pour résumer cette oppression. Donc une oppression matérielle qui se réfère à l'exploitation capitalistique ou capitaliste. Une oppression corporelle qui se réfère à l'usage des corps et l'exploitation en matière de procréation. Une oppression symbolique, donc l'usage de l'image et de stéréotypes liés à la race, au sexe. On a mentionné la classe, la race, le sexe, mais on n'a pas mentionné l'âge, la religion, etc., etc. Et qui permettent en fait ce triptyque de penser toutes les manières dans lesquelles ces imbrications et ces interactions entre les différents rapports de pouvoir peuvent avoir lieu. Donc pour penser non de manière additionnelle, mais bien de manière interactionnelle.
Et par rapport justement à la question des stéréotypes, on a dit l'intersectionnalité, c'est la spécificité notamment des femmes racisées prolétaires en termes de réalité matérielle, mais aussi en termes de représentation. La représentation idéologique des femmes noires au XIXe siècle et dans une large partie du XXe siècle aux États-Unis, c'est pas la représentation idéologique des hommes noirs plus celle des femmes blanches, mais c'est une spécificité, en l'occurrence on leur dénie tous les traits qui sont accolés à la féminité blanche, la douceur, etc., etc. Et en même temps, c'est très différent des stéréotypes qui sont accolés à l'homme noir, comme barbare, violeur, etc. Il y a vraiment, il y a aussi une spécificité par rapport à ça.
Oui, cette spécificité, elle est très bien théorisée par Bell Hooks dans « Ne suis-je pas une femme ?» où elle accorde tout un chapitre à... Il me semble qu'elle l'appelle « Femme noire et féminité » et elle montre que le mythe de la féminité qui pèse sur les épaules des femmes blanches a été un peu... d'abord collé sur les femmes noires et puis ensuite modifié pour que ça aussi ça colle à leur statut d'esclave qui faisait qu'elles devaient travailler et qu'elles ne pouvaient pas être entretenues par leur mari noir comme les femmes blanches bourgeoises pouvaient à ce moment-là. Et effectivement, comme tu le disais, le mythe de la féminité blanc était complètement incompatible avec les stéréotypes qui pesaient justement sur les femmes noires, le stéréotype de la femme noire... diable, prostituée, ou alors dans une autre matrone. Et finalement, c'était incompatible avec à la fois la femme noire était décrite, quand elle était décrite comme une prostituée avec un désir, une passion sexuelle complètement folle, alors que dans le même temps les femmes blanches justement ne pouvaient avoir de désir sexuel, donc c'était complètement incompatible. Et aussi je trouve que c'est assez intéressant, dans le livre de Bell Hooks, elle souligne qu'à ce moment là il y avait la théorie d'un matriarcat noir, et du coup justement là je trouve que c'est vraiment, on est un peu au cœur de l'intersectionnalité, parce que chez du coup les femmes noires il va y avoir un matriarcat, elles vont dominer quand bien même elles doivent travailler, quand bien même elles sont aussi sous la coupe des violences sexuelles de la part de leur mari, des hommes blancs, etc. Quand tu compares, le matriarcat noir n'a jamais été appliqué aux relations blanches, il n'y a jamais eu de mythe du matriarcat blanc, enfin dans ce système-là, je veux dire.
Oui, et c'est là où on a un peu le lien avec la dimension matérielle, c'est-à-dire que dans toutes ces représentations idéologiques des femmes noires esclaves, il y a une justification. Bah, si on dit qu'elles sont douces et fragiles, elles ne vont pas pouvoir aller travailler dans les champs, donc ça pose un petit peu problème. Le fait de les représenter comme des prostituées, ça va justifier le viol. Enfin, voilà, sans tomber dans une théorie de l'idéologie qui en fait un truc purement fonctionnel, mais on voit quand même qu'il y a un lien évidemment avec les réalités matérielles. Quoi.
Après, le viol des femmes blanches était aussi présent, pour autant elles étaient décrites comme impossible d'avoir du désir sexuel. Donc,
oui.
Justement, là on voit que l'idéologie parfois est indépendante des considérations matérielles.
Ou ça la justifie d'une autre manière, parce que. Ça peut être, là en l'occurrence, la femme blanche purement passive. Enfin voilà. Et peut-être pour revenir justement sur la question du black féminisme et qui est en fait un petit peu le contexte dans lequel est née l'intersectionnalité, est-ce qu'on peut dire encore autre chose ? Peut-être notamment le fait que tout le black féminisme n'est pas intersectionnel.
Ah oui, tout à fait. Quand on lit Angela Davis, Femme, Race et Classe, à la fois c'est fondateur et précurseur de l'intersectionnalité, dans le sens où ça montre les réalités historiques de la différence de vécu des femmes noires, mais à mon sens, de nombreux passages du livre montrent surtout la différence de vécu des personnes noires, dans le sens où elle s'attache à renforcer la conscience de classe noire plutôt qu'à montrer la spécificité des femmes noires. Et à mon sens, il y a un exemple assez impressionnant du livre, c'est la manière dont elle parle de Frederick Douglass, qui est un ancien esclave qui s'est enfui et qui ensuite a été un abolitionniste fervent, et notamment a lutté pour le droit de vote des hommes noirs, mais aux côtés des féministes blanches. Et dès lors que le vote des femmes blanches a été décrit comme impossible, finalement, il a décidé de se réserver la part du gâteau, ce qui est compréhensible, mais en écrivant un article assez violent à l'encontre du vote des femmes, en montrant vraiment la priorité qui devait être donnée au vote des hommes, noirs et blancs. Et Angela Davis justifie complètement son comportement et ne cite même pas l'article dans lequel il adresse quand même des remarques relativement violentes vis-à-vis de la nécessité du vote des femmes. Et quand on compare cet événement historique avec la manière dont, avec l'historiographie de Bell Hooks, où là justement elle souligne que finalement l'expérience de Frederick Douglass faisait qu'il effectivement privilégiait ses intérêts, et que justement il se positionnait contre les intérêts des femmes noires, à mon sens son analyse est bien plus intersectionnelle, ou en tout cas bien plus nécessaire à la naissance ensuite de l'intersectionnalité, dans la mesure où elle montre vraiment la spécificité du vécu des femmes noires.
Après, ce qui est intéressant avec Angela Davis, c'est sa contribution aux Critical Race Studies aux États-Unis. Et bien sûr, le livre de Bell Hooks est intéressant puisqu'il fait référence à l'histoire de Sojourner Truth, qui était une esclave noire et qui, en 1851, a fait un discours devant des femmes blanches qui voulaient lui couper la parole parce qu'elles étaient choquées qu'elle puisse intervenir, et donc ces mots d'introduction, c'était « ne suis-je pas une femme ?» puisque en tant que femme noire, elle n'avait pas le droit à la représentation et pas le droit à la parole. Et donc ce slogan en fait a été repris par Bell Hooks pour montrer donc ce que tu décrivais, toute l'intersectionnalité, les enjeux intersectionnels des femmes noires, notamment aux États-Unis. Donc juste pour resituer un tout petit peu le contexte, on a beaucoup parlé des États-Unis, et en effet, depuis les années 60, aux États-Unis, beaucoup de mouvements féministes se sont intéressés aux rapports sociaux entre race, sexe et classe, et ont en particulier dénoncé l'homogénéisation de la question dite des femmes, donc des femmes blanches, puisque présentées par des féministes blanches. Et donc, tu en parlais aussi, les alliances douteuses du féminisme blanc avec des mouvements racistes, ainsi que l'exclusion des questions des femmes, vice-versa, donc des mouvements pour les droits civiques et antiracistes aux États-Unis, donc, qui contribuent à l'invisibilité des minorités dans les minorités. Et ensuite, dans les années 70-80, les femmes racisées se sont constituées en tant que mouvement social. On a beaucoup parlé des femmes noires, mais il y avait aussi des mouvements de femmes latinas, chicanas, qui sont des femmes mexico-américaines. Et donc beaucoup, beaucoup d'auteurs, par exemple Gloria Hull, Bell Scott, Smith, Moraga, etc., etc., ont publié des livres, des discours de femmes racisées et des analyses des conséquences de l'esclavage, des colonialismes, etc., sur leurs conditions d'existence en tant que femmes racisées. Et le passage sous silence au sein des différents mouvements sociaux identitaires ou de revendication de ces conditions d'existence en tant que femmes racisées. Et aussi des accusations de sabotage, des difficultés à être représentées, à avoir une voix, le manque de solidarité entre ces différents mouvements, etc. Et donc ce qui est intéressant là, c'est que on commence en fait par l'appropriation militante de ce concept à en venir à la question de la solidarité des luttes sociales et de l'interdépendance de ces questions de domination, de leur imbrication. Et donc il y a toute une théorisation qui commence à exister avec des essais, différents essais publiés dans les années 70 et 80. Donc tu as mentionné le Combahee River Collective, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Et ce qui est intéressant de mentionner, c'est aussi que c'était pas seulement aux États-Unis, mais ce sont des mouvements qui ont vu le jour et qui avaient aussi plusieurs épicentres. Donc pas seulement les États-Unis, mais aussi beaucoup d'autres endroits dans le monde. Et je pense notamment aux mouvements post-colonialistes et post-coloniaux.
Oui, ça c'est important que tu le précises, parce que c'est vrai que effectivement l'intersectionnalité, enfin le concept a été développé par Kimberlé Crenshaw. C'est vrai qu'il est historiquement associé au féminisme noir, mais effectivement on peut pas l'y réduire. Et il y a deux numéros des cahiers du CEDREF, donc qui est donc une revue féministe, qui justement s'attache aussi à montrer le développement des théories intersectionnelles en Amérique latine. Donc il y en a un qui est sur toutes les théories des féministes chicanas aux États-Unis, et puis un des derniers numéros qui s'appelle Intersectionnalité et colonialité, justement, qui montre où il y a plusieurs articles qui parlent du développement de l'intersectionnalité au Brésil, avec donc la spécificité du féminisme noir au Brésil. Enfin voilà, c'est effectivement important de le préciser. Et après, il y avait une autre chose qui me faisait penser, c'était finalement l'intersectionnalité, elle permet de comprendre et de combattre des comportements qui, si on est dans une grille de lecture exclusivement en termes de classe ou exclusivement en termes de genre, exclusivement en termes de race, paraissent incompréhensibles. Donc le comportement des féministes blanches, le comportement des Black Panthers et des hommes noirs paraît incompréhensible si on pense spontanément à les Afro-Américains, de par leurs conditions de race, ils ont la même expérience, et du coup, pourquoi est-ce que les hommes noirs se comportent de telle façon, et si les femmes vivent toute la même oppression, pourquoi est-ce qu'elles se comportent, enfin pourquoi est-ce que les femmes blanches en fait invisibilisent et excluent les femmes noires de leur mouvement et de leurs revendications. Ce qui fait que on a beaucoup parlé de l'intersection entre guillemets des super opprimés, mais disons des femmes racisées prolétaires. Mais il y a évidemment une intersection des supradominants, donc les hommes blancs capitalistes. Mais il y a plein de situations intermédiaires qui vont faire que l'exemple de Frédéric Douglas est hyper parlant. Effectivement, sur le plan de la race, il est dominé. Et donc il va chercher à se mobiliser, à lutter contre le racisme. Mais sur le plan du genre, il est dominant, et donc il n'a pas les mêmes intérêts que les femmes noires. Et donc là, en l'occurrence, quand il va falloir s'agir de prioriser entre le vote des femmes et le vote des hommes noirs, en l'occurrence, il va se dire on va prioriser sur le vote des hommes noirs, avec un argumentaire qui est exactement celui de tous les opposants au suffrage féminin, c'est que finalement, les hommes noirs vont représenter les femmes noires, et donc finalement, les femmes noires n'ont pas vraiment tellement besoin du suffrage.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, ça renvoie à une expression qui est traduite de l'anglais pour donner « course aux oppressions » ou « course à qui est le plus opprimé ». Donc, en fait, une course à la reconnaissance publique des conséquences de telle ou telle oppression fondée sur le sexe, la race, etc. etc. Donc, cette course aux oppressions, nécessairement, elle s'exprime en termes de hiérarchie entre différents mouvements sociaux. Et c'est là que les théories militantes du CRC, du Combat et River Collectif, par exemple, sont intéressantes, puisque elles prennent le parti du plus petit dénominateur commun. Donc elles prennent le parti de « si vous nous libérez, nous, femmes, descendantes d'esclaves, prolétaires, racisées, etc., alors vous libérez tout le monde ». Donc on prend le parti d'une stratégie anti-oppression ou d'une stratégie de lutte qui ne puisse pas être unidimensionnelle, mais qui, si elle est anticapitaliste, elle doit aussi être antiraciste et aussi féministe, etc. etc. Donc en se prenant comme dénominateur commun, on met fin, ou en prenant cette oppression comme dénominateur commun, on met fin à la hiérarchisation des rapports de pouvoir.
Et c'est hyper intéressant justement ce que dit le Combat River Collective, parce qu'en fait ça amène à repenser de manière radicalement nouvelle une vieille question des théories révolutionnaires, qui est la question du sujet révolutionnaire. Et c'est vrai que si on regarde le sujet révolutionnaire dans l'imaginaire de tous les mouvements d'extrême gauche, de l'anarchisme au marxisme, c'est toujours des hommes blancs ouvriers. Or, effectivement, sur le plan de la classe, effectivement, ils sont effectivement opprimés, mais sur le plan du genre et de la race, au contraire, ils ne peuvent pas être des sujets révolutionnaires, parce que ce sont des sujets qui ont des intérêts matériels, même si on peut trouver d'autres formes d'intérêts à sortir du patriarcat pour un homme, ou à sortir du suprémacisme blanc pour un blanc, mais toujours est-il qu'ils vont plutôt avoir tendance, de par leur position sociale, à être extrêmement conservateurs et contre-révolutionnaires sur la question du genre et de la race. Et du coup, c'est vrai que finalement, on pourrait dire, est-ce que finalement, s'il fallait une figure du sujet révolutionnaire, est-ce que ce ne serait pas plutôt les femmes racisées, prolétaires ? Et après, on peut évidemment rajouter aussi d'autres choses, la dimension aussi de l'orientation sexuelle, et en l'occurrence, effectivement, pour le Combat River Collectif, c'est le cas. Après, la question de l'intersectionnalité ferait que, ce serait le sujet révolutionnaire, enfin les sujets révolutionnaires par excellence, mais en même temps, évidemment, il y a toutes ces strates intermédiaires dont on a parlé qui vont avoir plus ou moins intérêt à un bouleversement, une transformation de l'ordre social. Enfin, il n'y a pas qu'un sujet révolutionnaire, mais disons que, c'est complètement abusif d'avoir cette représentation toujours aujourd'hui du sujet révolutionnaire comme étant l'homme blanc prolétaire, sachant que finalement, lui, il a intérêt à une seule révolution sur beaucoup. Et encore, est-ce que c'est possible vraiment de faire qu'une seule révolution, sachant que les systèmes d'oppression sont imbriqués? Après ce premier tour d'horizon sur l'intersectionnalité, nous allons faire une pause musicale. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Lurleen Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about. All in the air, I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama has got me so upset, and Memphis has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn.
hound dogs on my trail. Little school children sitting in jail. Black cat crossed my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. 'Cause I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there, so I know. You keep on saying go slow. Well, that's just the trouble. Washing the windows. Picking the cotton. Nothing but rotten. Too damn lazy. Thinking's crazy. Where am I going? What am I doing? I don't know. I don't know. Just try to do my very best. Stand up, be counted with all the rest. 'Cause everybody knows about Mississippi, goddamn.
Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, dans une émission de Sortir du patriarcat capitalisme, une critique radiophonique du patriarcat, du sexisme et des oppressions liées au genre et aux sexualités, et ce dans une perspective intersectionnelle, anticapitaliste et antiraciste. Et justement, aujourd'hui, nous parlons d'intersectionnalité, et c'est la deuxième partie de notre émission sur ce sujet, et nous sommes toujours avec Raphaëlla et Sophia. Alors, donc, dans une première partie de l'émission, nous avons un petit peu défini ce que c'était que l'intersectionnalité. On a vu un petit peu le contexte historique dans lequel il s'était forgé, les mauvaises compréhensions de l'intersectionnalité. Voilà, ses liens avec le black féminisme. Et donc maintenant, on va un petit peu élargir le spectre un petit peu des théories de l'intersectionnalité, puisque depuis son invention officielle par Crenshaw en 1989, eh bien, il y a beaucoup de théoriciennes et de courants de pensée qui se sont emparés de ce concept d'intersectionnalité. Et donc, une des choses peut-être schématiquement qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs matrices, plusieurs approches de l'intersectionnalité. Là, j'en donnerai juste peut-être trois. Une plutôt juridique, qui est donc celle de Kimberlé Crenshaw. Une plutôt post-structuraliste. Alors, donc, pour définir ce que c'est que le post-structuralisme, qu'on utilise de manière alternative à post-moderne, parce que dans les milieux militants notamment, le concept de postmoderne est utilisé à tort et à travers. Dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on dit qu'il est postmoderne. Donc là, en l'occurrence, post-structuraliste, ça veut dire une analyse qui ne raisonne pas en termes de structure, de domination, etc., etc., comme par exemple le marxisme, le structuralisme, le féminisme matérialiste. Donc on verra un petit peu qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité dans cette compréhension-là, dans cette approche-là. Et puis, troisièmement, bon, peut-être ce qui nous intéresse le plus ici, c'est une intersectionnalité matérialiste. Alors évidemment, il y a une dimension matérialiste à l'intersectionnalité de Crenshaw, mais disons une intersectionnalité matérialiste en dehors du champ juridique, donc qui est cette intersectionnalité matérialiste qui est celle notamment du Combahee River Collectif, même si bon, c'est plus un précurseur qu'autre chose, mais qui est aussi celui de Evelyn Nakano Glenn. Voilà, pour le coup, qui n'est pas une afroféministe. Puis, évidemment, Patricia Hill Collins. Je pense qu'on a déjà bien vu un petit peu ce que c'était que l'intersectionnalité juridique de Crenshaw. Peut-être on peut en rajouter des choses. Mais peut-être passer à, justement, puisque j'ai évoqué ce mot un peu fourre-tout de post-structuralisme, qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité dans une approche post-structuraliste et quels sont un petit peu ses apports, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant malgré tout, même si dans l'émission on est plutôt matérialiste, mais quelles sont les limites quand même de cette approche, quoi.
Bah, sur le sujet, en fait, c'est intéressant de voir que la plupart des critiques de l'intersectionnalité actuellement se réfèrent à une,
à ce que ces critiques décrivent comme une interprétation post-moderne ou post-structuraliste de l'intersectionnalité. Or, la description que ces critiques font du concept d'intersectionnalité, pour moi, à mon sens, en tout cas, c'est plutôt un dévoiement, en fait, de ce concept. Parce qu'au lieu de souligner les ajouts des théoriciens postmodernes ou des théoriciennes poststructuralistes, on caricature un peu l'intersectionnalité comme ce que Crenshaw a appelé une politique identitaire sous stéroïdes. Donc, c'est-à-dire que on force le trait en accusant l'intersectionnalité d'essentialiser les différences, de créer des sous-groupes et de les naturaliser, par exemple femmes, noires, lesbiennes, etc. Et donc à atomiser les luttes en se focalisant sur les identités individuelles et donc fractionnant les mouvements, individualisant les mouvements. Et c'est beaucoup une critique qui est faite à l'intersectionnalité, que l'intersectionnalité ne peut pas être un outil du militantisme puisque c'est un outil qui insiste sur les individualismes, qui insiste sur les identités individuelles en disant X ne peut pas parler pour Y car X n'a pas fait la même expérience que Y, et vice-versa. Alors que ce que disent les post-structuralistes de l'intersectionnalité, et c'est précisément aussi tiré de la déclaration militante du Combahee River Collective, c'est que l'analyse en termes de classe ne suffit pas, mais qu'il faut rajouter une analyse en termes d'identité. Mais d'identité comme marqueurs sociaux, d'identité comme division sociale et d'identité comme appropriation aussi, puisque ce que disent les post-structuralistes, c'est aussi que l'identité est un outil politique, donc est un outil de revendication. Au lieu de parler de l'identité comme cet instrument politique ou cet instrument de politique de reconnaissance, pour utiliser les termes de Nancy Fraser, les critiques qui ont mal compris peut-être cette interprétation de post-structuraliste de l'intersectionnalité le caricature comme des caractéristiques essentielles ou naturelles des personnes qui font qu'un mouvement social féministe ne pourra pas s'allier à un mouvement social queer, qui ne pourra pas s'allier à un mouvement social antiraciste, etc. etc. Donc je trouve qu'il y a un gros problème de confusion en fait sur ce qu'est l'intersectionnalité dans le sens post-structuraliste et sur ce qu'est l'intersectionnalité tout court au final.
Mais peut-être qu'on pourrait faire une distinction entre l'intersectionnalité post-structuraliste qui serait peut-être plus à même de comprendre et de théoriser le vécu au niveau micro des femmes noires prolétaires par exemple, tandis que le féminisme matérialisme pourrait de manière plus convaincante théoriser l'organisation structurelle des systèmes de domination, mais du coup finalement l'un ne serait que le versant de l'autre et ils s'enrichiraient mutuellement plutôt que de se confronter sur le même sujet en fait.
En fait, je pense que par rapport à ça, tout dépend, parce que là effectivement on dit une intersectionnalité post-structuraliste. Je pense qu'il y a des intersectionnalités post-structuralistes, disons, qui vont plutôt s'inspirer de Foucault, où il y a quand même chez Foucault une dimension matérielle en termes de rapport de pouvoir. Et là, effectivement, l'analyse des rapports de pouvoir à un niveau micro, elle est parfaitement complémentaire d'une analyse des rapports de domination à un niveau macro. Par contre, c'est vrai que un postmodernisme qui est plutôt focalisé sur le discours, l'identité, peut-être va être plus en confrontation et en opposition avec une analyse matérialiste. Encore que on peut faire, comme pas mal de marxistes post-structuralistes le font, dire que les discours sont aussi des forces matérielles, et ça de manière assez convaincante.
Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que donc, quand on parle de politique identitaire, ce qui en anglais donne identity politics, on en réfère souvent au manifeste du Combahee River Collective comme la source de la théorisation de la politique identitaire, comme un outil qui utiliserait en fait les marquages identitaires ou les démarcations en termes de division sociale comme des instruments politiques de visibilité, de reconnaissance, etc. Et ce que dit le manifeste du Combahee River Collective, c'est pas seulement que l'identité doit être utilisée comme un outil politique, mais c'est aussi une déclaration marxiste, puisque dans le Combahee River Collective, dans leur manifeste, ils se revendiquent clairement du marxiste. Et donc, c'est pas une confrontation avec le marxisme, mais c'est une extension des théories révolutionnaires marxistes ou marxiennes par l'ajout de l'identité comme un instrument politique. Et donc, en fait, ces deux éléments, le matérialisme et l'identité qu'on pourrait apparenter au courant post-structuraliste par la suite, qui viendra par la suite, on les oppose souvent, mais en fait, à l'origine, ils étaient combinés pour donner naissance à une théorie de la anti-oppression ou une théorie de la révolution plus riche et plus fidèle aux réalités sociales qui sont complexes en termes de division sociale.
Oui, et ça, c'est vraiment intéressant ce que tu as dit, parce que souvent, on voit dans les milieux militants ou chez des théoriciens marxistes une critique très véhémente des identity politics ou de la postmodernité et tout, alors que, sans vouloir être méchant, on ne peut pas dire que la théorie marxiste soit exempte de toute forme d'identitarisme, la glorification de la figure de l'ouvrier, qui a pris des proportions évidemment aberrantes avec le stalinisme et le stakhanovisme. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y avait une dimension identitaire très forte dans le mouvement ouvrier et qui a été parfois extrêmement problématique. Par exemple, ça amoindrit évidemment la critique de ce qu'il peut y avoir d'aliénant dans le travail, puisque c'était une espèce d'affirmation de l'identité de travailleur. Donc évidemment, la critique du travail salarié ou de l'aspect aliénant du travail est passé un peu à la trappe. Finalement, de cette affirmation d'identité ouvrière excessive, le mouvement ouvrier a fini par penser le socialisme comme le socialisme, c'est travailler plus. C'était ça que disaient les marxistes-lénistes dans les années 20. Et donc, je pense que c'est un petit peu douteux de la part des marxistes de critiquer les identity politics. Et aussi, je pense que l'enjeu n'est pas tellement la question de est-ce qu'un mouvement est identitaire, entre guillemets, ou pas, mais plutôt de quelle est sa compréhension implicite ou explicite de l'identité. Il peut y avoir, un rapport à l'identité intersectionnelle qui est matérialiste. Par exemple, chez Christine Delphi, évidemment qu'il y a un sujet, il y a une identité, nous les femmes, évidemment qui a été critiquée ensuite par l'intersectionnalité, disons que ça pourrait être dans le Combat River collectif, nous, femmes noires, prolétaires, lesbiennes. Mais évidemment, le but de cette revendication identitaire, c'est d'abolir les oppressions qui sont constitutives précisément de cette identité. C'est pas de dire on veut toujours être des femmes noires, prolétaires, victimes de l'hétéropatriarcat. Après, une deuxième conception de l'identité, une conception post-structuraliste. Enfin, en tout cas, c'est ce que, par exemple, Dorlin développe quand elle critique l'intersectionnalité. Elle dit le problème de l'intersectionnalité, c'est que ça appelle finalement, alors elle aussi, dans une critique qui, moi, me paraît complètement à côté de la plaque, mais soi-disant l'intersectionnalité appellerait finalement les femmes racisées prolétaires à s'identifier, à s'enfermer dans ces identités et finalement à ne pas subvertir leur identité, etc. Et c'est vrai que, là en l'occurrence, ce serait un rapport un peu post-structuraliste aux identités, en tout cas chez Zadorlin, de finalement, on doit s'éloigner de ces. Enfin, on doit se défier de ces identités, on doit les subvertir, même si évidemment, en termes de mobilisation politique, ça pose un problème, parce que si on ne se mobilise pas de par les catégories sociales créées par les oppressions, on se mobilise à partir de quoi? Et là, c'est là où la théorie post-structuraliste est un peu à côté de la plaque.
Oui, la compréhension du concept d'identité, là, je pense qu'elle est vraiment clé. Parce que le problème de certaines critiques qui, selon moi, dévoient le concept d'intersectionnalité et son potentiel critique, c'est la compréhension du terme identité comme une catégorie figée. Alors que, précisément, les analyses intersectionnelles tendent à utiliser ce concept d'identité pour analyser de quoi il est constitué et quel rapport de pouvoir il recouvre. Et donc, en fait, plus qu'une identité, quand on parle d'intersectionnalité ou quand on fait une analyse intersectionnelle, on parle de marquage social, de division sociale, de positionnement social, et donc on parle de pouvoir au final. Le concept qui est au centre de ces analyses-là, c'est le concept de pouvoir et où suis-je placé dans le tissu social en termes d'avantages, de privilèges, de désavantages et d'oppression. Donc, ce terme d'identité, il est un peu utilisé comme un terme fourre-tout, puisque évidemment, il y a une part très personnelle, il concerne une part très personnelle de nous, de notre processus d'identification, de définition sociale, mais il concerne aussi tout un travail politique de représentation et de réflexion sur notre positionnement social. Donc, pour moi, le concept d'identité tel qu'il est utilisé dans la théorie intersectionnelle ou dans les théories intersectionnelles, c'est plus un proxy pour décrire toute une analyse beaucoup plus complexe en termes de rapports sociaux. Et je pense que c'est aussi ce que les post-structuralistes ont eu tendance à dire, même s'ils ont été critiqués pour ça. L'identité, ce n'est pas quelque chose d'essentialisé, de naturalisé, c'est quelque chose de construit. Et donc, l'analyse intersectionnelle va chercher à déconstruire cette identité. Et par cette déconstruction, ce processus de déconstruction, à mettre au jour des dynamiques d'oppression et d'inégalité.
Oui, et par rapport à ça, justement, on voit que, c'était aussi un des points que je voulais faire précédemment, c'était que, en fait, finalement, l'analyse post-structuraliste et l'analyse essentialiste, qu'on rapproche abusivement, en fait, sont complètement opposées. Et donc, d'une certaine manière, à la fois l'intersectionnalité matérialiste et l'intersectionnalité post-structuraliste s'opposent, bien que de manière différente, à une intersectionnalité essentialiste, qui d'ailleurs, bon, on la voit pas trop en tout cas, bon, c'est un petit peu un fantasme, une figure un peu repoussoire. Et justement, par rapport à la question de la construction et de la déconstruction, peut-être que ce qui sépare quand même l'analyse matérialiste, en tout cas l'intersectionnalité matérialiste et l'intersectionnalité post-structuraliste, c'est que, disons que la déconstruction dans le cadre d'une analyse matérialiste, c'est de dire derrière cette identité, il y a ces rapports de domination. Et du coup, il s'agit d'aboutir à une forme de déconstruction matérielle, c'est-à-dire en fait de détruire le rapport de domination qui est constitutif de cette identité, et de cette identité notamment intersectionnelle. Et par contre, dans le post-structuralisme, une critique qui pour moi ne me paraît pas complètement irrecevable, c'est que parfois, dans l'idée de déconstruction, par exemple chez Judith Butler, il y a l'idée qu'il s'agit effectivement de questionner, de critiquer l'identité, une identité qui est constituée par des rapports de pouvoir, mais sans qu'il y ait finalement la possibilité, mais ça c'est lié un peu à la théorie de Foucault aussi du pouvoir, que le pouvoir est partout et qu'on ne peut pas vraiment en sortir. Donc finalement on peut y résister, on peut jouer, on peut troubler les identités. Donc là, pour moi, j'y vois une opposition, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on voit aussi des formes de pensée aussi un petit peu hybride entre les deux, comme Patricia Hill Collins, où là, finalement, il y a une référence aussi à Foucault, rapport de pouvoir, et en même temps, une perspective un peu matérialiste, entre guillemets, de « il faut en finir avec ces systèmes d'oppression ».
Je ne suis pas nécessairement d'accord avec l'opposition entre... une intersectionnalité matérialiste et une intersectionnalité post-structuraliste, même si je sais que, bien évidemment, ces deux courants se sont définis l'un par rapport à l'autre et l'un en contradiction de l'autre. Mais j'ai l'impression que, justement, en fait, on peut enrichir le concept en prenant, par exemple, comme instrument la théorie de Mouffe sur les constellations, le discours comme constellation de pouvoir, et donc l'utilisation du discours comme un instrument de résistance à certaines configurations du pouvoir. Donc, par exemple, utiliser l'identité ou les identités comme un moyen de résistance en exposant, par le processus de la déconstruction, les rapports sociaux qui y sont liés, et en utilisant la représentation et le discours pour les reconfigurer. Donc, par exemple, utiliser un stéréotype, le déconstruire, en montrer tous les enjeux, et le reconstruire de manière différente, d'une manière qui soit en opposition. Par exemple, si on pense au mouvement du black féminisme, donc ce que vous avez évoqué plus tôt en parlant des stéréotypes dégradants par rapport au corps des femmes noires, à leur non-féminité, à leur bestialité, etc., en reprenant ce stéréotype, en le déconstruisant, en exposant tous les enjeux de pouvoir et aussi tout le caractère fallacieux, et en le reconstruisant en utilisant l'image de la femme noire, comme par exemple, on a beaucoup parlé de Beyoncé comme quelqu'un de féministe qui utilise son corps et sa féminité pour revendiquer une féminité afro-féministe. Donc, par exemple, jouer sur ces représentations, sur les discours, et les utiliser comme des stratégies de résistance. Ça, pour moi, ça serait un enjeu post-structuraliste, intersectionnel, qui pourrait enrichir une théorie, bien évidemment, nécessairement matérialiste de l'intersectionnalité.
Oui, par rapport à ça, effectivement, c'était simplement pour souligner qu'il y avait évidemment quand même des divergences entre, disons, les féministes qui se revendiquent du matérialisme et les féministes qui se revendiquent du post-structuralisme. Mais évidemment qu'il y a des hybridations qui sont, à mon avis, assez intéressantes, bon, notamment sur le fait que, disons, qu'il peut y avoir des tendances, disons, du côté du matérialisme comme du côté du post-structuralisme, si elles sont poussées au bout, à tomber dans une forme de réductionnisme. Par exemple, un matérialisme qui ne prendrait pas du tout en compte la question des idéologies et des discours serait évidemment très réductionniste. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il y a un certain marxisme qui est devenu une forme d'économicisme, de réduction de tout aux dites infrastructures économiques. Et c'est vrai que, par exemple, là-dessus, le marxisme qu'on dit post-structuraliste a ça d'intéressant que, justement, il montre que en fait, le discours et les idéologies comptent vraiment, que ce sont des forces matérielles et que, comme tu disais, placer la lutte au niveau, au moins en partie, au niveau des idéologies, des discours, des stéréotypes, c'est pas simplement un truc petit bourgeois qui n'a aucun intérêt et tout, mais que ça peut être un vrai enjeu de lutte. Et par rapport à cette symbiose, le truc que je trouvais intéressant, mais ça fera l'objet d'une autre émission, c'est toutes les tentatives de matérialiser la théorie queer, même si c'est quelque chose qui est un peu différent, mais disons de corriger la tendance parfois qu'il y a eu dans les théories queer ou post-structuralistes, un peu oublier les inégalités sociales et économiques, les oppressions de classe, etc. Et effectivement, je suis d'accord avec toi que en vrai, c'est pas une opposition absolue et que ça peut être fécond d'hybrider les deux.
Mais j'ai l'impression que dans cette discussion, on a assimilé le matérialisme au black féminisme. Mais j'ai l'impression, en lisant parfois Patricia Hill Collins, qu'elle-même est parvenue à synthétiser le matérialisme et le post-structuralisme quand elle propose justement que l'intersectionnalité doit prendre en compte plusieurs domaines du pouvoir qui sont structurel, disciplinaire, hégémonique, dont dans hégémonique elle inclut culturel et idéologique et interpersonnel. Et du coup, quand elle établit cette dichotomie, on ressent une influence post-structuraliste très forte.
Oui, et par rapport à ça, je pense que cette hybridation, elle est aussi, elle est aussi nécessaire aussi pour éviter de tomber dans des critiques qui, moi, me paraissent un peu dangereuses, par exemple de la part de militants d'extrême gauche, en disant « Non, mais finalement, le combat queer ou le combat LGBT ou le combat des féministes noires, c'est un combat réformiste. Et donc, finalement, petit bourgeois, ça n'a aucun intérêt, etc. etc. » Alors que, évidemment, il peut y avoir une dimension réformiste à ces mouvements, mais j'ai envie de dire, dans le mouvement ouvrier, les tendances réformistes, elles existent, elles sont aujourd'hui, elles sont majoritaires de manière écrasante, et oui, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de combats qui sont menés, notamment dans une perspective intersectionnelle, sur des terrains qui, effectivement, sont légalistes, ou pour obtenir des droits, etc., mais en fait, c'est aussi lié à un contexte général, qui est qu'on n'est pas dans le contexte des années 70 aujourd'hui. On n'est pas dans un contexte révolutionnaire ou pré-révolutionnaire. Et donc, en réalité, le mouvement ouvrier fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il demande des droits. C'est simplement pour répondre à une critique qui est souvent faite, je trouve, de l'intersectionnalité dans l'extrême gauche, c'est qu'elle serait une théorie qui irait bien avec un mouvement un peu réformiste, une convergence des luttes qui se contenterait de demander des droits et quelques avantages sociaux. Alors que l'intersectionnalité, n'est pas intrinsèquement réformiste, deux, les mouvements qui s'en réclament, qui ont une dimension réformiste, mais comme tous les mouvements sociaux aujourd'hui, parce qu'on n'est pas dans une période révolutionnaire, et trois, si la période devenait plus révolutionnaire, évidemment que l'intersectionnalité aurait tendance, comme elle l'a fait dans les années 70, avec le manifeste du combat River Collective, à se radicaliser, à devenir plus révolutionnaire, quoi.
Juste une petite précision par rapport à notre utilisation du terme intersectionnalité. on a tendance à résumer l'intersectionnalité comme une autre grande théorie sociale, alors que vraiment l'intersectionnalité c'est un outil conceptuel, un instrument qui s'inscrit et qui se nourrit des différentes théories sociales, théorie de la justice, théorie de l'égalité, etc., qu'on connaît et dont on a absolument besoin pour parler d'intersectionnalité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'intersectionnalité comme une théorie en elle-même, mais bien plutôt comme une approche analytique. Et de ce fait, au tout début, tu avais mentionné l'existence de différentes matrices. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de matrice de l'intersectionnalité, mais dans tous les cas, on peut dire que l'intersectionnalité s'inscrit dans différents courants politiques, idéologiques, théoriques, et que comme ces courants sont en constante évolution, c'est un concept qui a été maintes et maintes fois réapproprié, remodelé, etc. Et donc c'est un concept dont la signification varie en fonction de son contexte. Et c'est toujours vraiment important de mentionner dans quel contexte on parle de l'intersectionnalité pour bien comprendre quels en sont les enjeux et les tenants et les aboutissants politiques et idéologiques.
Oui, par rapport à ça, c'est vrai que l'intersectionnalité a été beaucoup critiquée, notamment dans les milieux militants d'extrême gauche, comme étant un concept qui finalement était devenu un peu à la mode, qui serait utilisé par les institutions européennes, par les institutions de la mondialisation néolibérale. Mais en vrai, une bonne partie des concepts, à part les concepts extrêmement techniques, sont récupérés. Le concept de genre reste quand même un concept subversif, mais oui, effectivement, il est récupéré. Je veux dire, dans l'INSEE, on peut aussi parler de classe sociale, c'est pas ça qui va faire que le concept de classe est vidé de toute substance. Et du coup, effectivement, comme tu disais, l'intérêt, c'est aussi de définir qu'est-ce qu'on entend par intersectionnalité, comment est-ce qu'on l'utilise.
Et d'ailleurs, de même que, peut-être une petite précision, puisqu'on est dans un contexte français, on a beaucoup utilisé le terme de race, qui est un terme qui est aussi un terme ambivalent, puisque c'est un terme qui peut correspondre à des réalités racistes, donc à un usage raciste, comme prétendue réalité biologique, ce qui bien sûr n'est pas vrai. Et alors ça, c'est un premier usage, et c'est souvent l'usage que les gens comprennent de prime abord, alors que la race, c'est aussi une catégorie critique, d'analyse critique. Et donc, parler de race, c'est parler de racisme, et donc analyser différentes interactions à travers le prisme du racisme. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner, notamment au vu des débats sur la suppression du concept de race de la Constitution française. Et c'est la même chose que le terme genre par rapport au terme sexe. Donc c'est vraiment un outil d'analyse critique. Je pense que c'était important de le mentionner.
Oui, c'est effectivement hyper important de le préciser, parce que c'est vrai que aux États-Unis ou dans une partie maintenant quand même relativement importante des milieux militants français, évidemment, on entend par race une construction sociale qui est le produit d'une oppression matérielle, idéologique, politique, etc. Mais c'est vrai que, voilà, pour notamment, et là il faut encore critiquer une partie des milieux militants et même de la société française en général, le fait de remettre le concept de race sur la place publique, ce serait être raciste, alors qu'en réalité, le fait de refuser l'utilisation critique de ce concept, c'est en réalité en fait, empêcher tout débat autour du racisme, outre que les débats sur simplement le FN est raciste ou telle personne est raciste, en faire simplement une espèce d'attitude individuelle un peu pathologique, et finalement empêcher tout débat. Et parfois, il faut le dire, dans les milieux militants, cette espèce de phobie du concept de race a servi à rejeter en bloc l'antiracisme matérialiste et politique, et aussi, par la même occasion, l'intersectionnalité. Et d'ailleurs, cette phobie du mot race, elle va de pair un petit peu dans l'extrême gauche avec une phobie de toute forme d'affirmation d'une identité. À part, étrangement, la classe ouvrière, là par contre, il n'y a pas de problème, on peut se revendiquer de la classe ouvrière. Mais alors, toute autre forme de revendication, entre guillemets, identitaire, est critiquée. Alors, donc, du coup, ça permet évidemment d'empêcher la critique antiraciste et la critique féministe, enfin, disons les critiques conséquentes du racisme et du sexisme, de se faire. C'est un petit peu finalement la critique que Dorlin aussi fait, paradoxalement. Pourtant Elsa Dorlin, travaux extrêmement intéressants, mais dans un article de 2005, elle critique l'intersectionnalité, et en l'occurrence elle critique le fait que des femmes racisées prolétaires vont s'emparer de l'intersectionnalité pour s'affirmer en tant que femme noire prolétaire. Elle critique ça comme une forme de réification, de revendication d'une identité figée qui serait contre l'émancipation. Et donc elle propose une autre voie de l'émancipation, justement, de se défier justement de ces identités. Et bon, moi ça m'a paru un petit peu très idéaliste de croire que les gens vont pouvoir abattre des oppressions en refusant d'admettre qu'ils sont des produits intersectionnels, en l'occurrence, de ces oppressions.
Alors que justement, l'un des principaux combats aussi de l'intersectionnalité, c'est ce que tu disais, Raphaëlla, tout à l'heure, de veiller à l'absence d'invisibilisation des populations opprimées, alors que si en plus on demande à ces mêmes populations de refuser de se reconnaître en tant que population opprimée de manière intersectionnelle, elles-mêmes participent encore plus à leur invisibilisation, si je puis dire.
Et de plus, la critique que fait Dorlin sur ce point, pour moi, c'est plus une critique du droit antidiscriminatoire qu'elle prend pour objet d'étude qu'une critique réellement de l'intersectionnalité, parce qu'elle critique l'usage de catégories figées. Mais dans le droit de la non-discrimination, il y a des catégories figées qui servent de catégories de protection. Donc, en tant que juge, quand on a un cas de discrimination face à soi, on a le choix entre différentes catégories protégées. Donc, on a parlé de la race, de l'origine ethnique, du sexe, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de la religion, etc. etc. Et ces catégories-là sont nécessairement, un, des catégories liées à l'identité, et deux, des catégories figées. Mais ça ne veut pas dire que l'analyse sociologique qui va en résulter sera une analyse figée. Ça veut dire que ces catégories servent de proxy pour saisir des rapports d'inégalité. Et donc c'est un instrument juridique et un instrument vraiment pragmatique et pratique. Et de là, une analyse plus dynamique des rapports sociaux est tout à fait possible. Donc par exemple, si on prend la catégorie du genre, on peut très bien analyser le droit de la famille et le mariage en termes d'exploitation du travail domestique, d'exploitation du corps de la femme et de ses capacités de procréation, etc. etc. Donc le fait qu'il y ait des catégories figées dans le droit ne veut pas dire que l'analyse antidiscriminatoire qui va en découler sera une analyse figée des rapports sociaux. Mais tout l'enjeu de l'intersectionnalité, et c'est aussi ce que dit Crenshaw dans son article, c'est de saisir comment ces rapports sociaux se configurent à travers ou par le biais de ces différentes catégories. Donc comment la catégorie de sexe dans le droit antidiscriminatoire américain permet ou ne permet pas, en l'occurrence, de saisir le licenciement massif et de protéger les victimes d'un licenciement massif de toutes les employées noires d'une compagnie X aux États-Unis. Donc l'enjeu, c'est moins la catégorie qui est figée nécessairement pour les besoins du droit que l'analyse sociologique qui va y avoir derrière.
Mais finalement, peut-être l'intersectionnalité, ça permettrait de défiger ou de moins figer des catégories sociales déjà figées par le droit. C'est-à-dire que grâce à une analyse intersectionnelle des droits de la non-discrimination, on pourrait, entre guillemets, qualifier une personne non pas en fonction seulement de son genre ou seulement de sa race, mais en fonction de son genre et de sa race de manière combinée, ce qui permettrait de défiger à la fois la catégorie genre et la catégorie race en les combinant et en les analysant de manière combinée.
Oui, c'est vrai qu'au moins, même ne serait-ce que dans le domaine du droit, même si on reprend l'intersectionnalité telle qu'elle est appliquée dans le domaine du droit, au moins ça complexifie la question des oppressions, etc. Et finalement, la critique de Dorlin, et dans cet article de 2005, elle est un petit peu malvenue, parce que d'un côté, elle critique l'intersectionnalité telle qu'elle est utilisée en droit par... en droit de la non-discrimination par Crenshaw, sous prétexte que, du coup, ça donnerait une analyse sociologique qui oublierait tout l'aspect dynamique et mouvant et imbriqué des rapports de pouvoir, sachant qu'en fait c'est juste pas l'objet de l'usage de l'intersectionnalité par Crenshaw dans le droit de la non-discrimination. Et d'un autre côté, elle passe un peu sous silence ce que justement l'approche de Crenshaw a apporté en matière de lutte contre les discriminations. Peut-être on peut rapidement en dire quelque chose.
Bah de fait, l'intersectionnalité, elle a un enjeu spécifique au droit, notamment dans les travaux de Crenshaw. Alors, par un apport de visibilité aux populations discriminées, donc Crenshaw, elle analyse la manière par laquelle le droit antidiscriminatoire rend invisible et donc vulnérable certaines minorités placées aux intersections de certaines catégories protégées, en l'occurrence le sexe et la race, puisqu'elle prend l'exemple du cas de licenciement que j'ai mentionné tout à l'heure, et explique comment les femmes licenciées, qui se trouvaient être des employées femmes noires, que les juges ont refusé de les inclure dans la catégorie sexe puisque les femmes blanches n'étaient pas discriminées, et de les inclure dans la catégorie race puisque les hommes noirs n'étaient pas discriminés. Donc ces femmes noires qui étaient licenciées n'ont pas pu trouver justice à travers le droit antidiscriminatoire puisque chaque catégorie ne saisit que partiellement les oppressions. Donc la catégorie race, qui est protégée par le droit antidiscriminatoire, saisit le racisme contre les hommes noirs qui deviennent la norme et donc qui ignorent les femmes. Et vice-versa, la catégorie sexe, la norme de cette catégorie, c'est la femme blanche, et donc cette catégorie ignore les femmes racisées. Et donc ça, c'est l'argument de la visibilité que Crenshaw montre bien dans ses articles. Et plus largement, en droit, l'intersectionnalité complexifie le droit antidiscriminatoire en reconceptualisant la discrimination comme un phénomène pas unidimensionnel, mais pluridimensionnel, et donc en introduisant une explication qu'un critère protégé n'intervient dans un phénomène de discrimination jamais en isolation. Donc il intervient toujours en synergie avec d'autres critères. Par exemple, les stéréotypes sexistes qui sont au fondement de certaines discriminations ne sont jamais des stéréotypes sexistes qui sont indépendants des rapports sociaux liés à la classe, au sexe, au statut social, à l'orientation sexuelle, à l'âge. On connaît tous des stéréotypes qui jouent sur l'âge des femmes, qui jouent sur l'orientation sexuelle des femmes, etc., etc. Donc en fait, dans le droit antidiscriminatoire, l'intersectionnalité, elle complexifie l'analyse en introduisant cette synergie entre différentes catégories. Et enfin, l'intersectionnalité dans le droit invite les juges à considérer, enfin selon moi, la co-constitution en général des rapports sociaux qui conduisent à la discrimination.
Oui, du coup, finalement, dans le domaine du droit, ça a permis de s'attaquer, de saisir et de combattre un plus grand nombre de cas de discrimination, puisque finalement, le droit antidiscriminatoire, avant l'intersectionnalité, d'une certaine manière, s'attaquer uniquement aux discriminations subies par les femmes blanches, hétérosexuelles, etc., et les hommes noirs, hétérosexuels, etc., alors que maintenant, avec l'intersectionnalité, justement, on peut s'attaquer à l'ensemble, enfin, à un nombre beaucoup plus important de situations de discrimination. Et évidemment, on peut dire que, évidemment, c'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes du patriarcat, du racisme et du capitalisme. Mais bon, tant qu'on est dans cette société capitaliste, patriarcale et raciste, c'est quand même mieux qu'il y ait un peu moins de discrimination.
Et pour juste donner une précision par rapport au rôle de l'intersectionnalité dans le droit, il a un rôle vraiment spécifique puisqu'il permet, enfin ce concept, de dépasser certains obstacles, notamment en termes de procédure, de charge de la preuve, etc. Donc c'est un peu spécifique, mais prenons l'exemple d'un handicap genré, comme il en existe beaucoup, donc un handicap qui serait de nature à n'affecter qu'un seul genre, par exemple un handicap reproductif ou qui soit vraiment un handicap associé au genre. Et bien en fait, pour prouver une discrimination sur la base de ce handicap genré, il va falloir le plus souvent introduire un argument intersectionnel pour montrer l'interdépendance des catégories protégées à l'œuvre. Et donc en droit, en fait, l'intersectionnalité a vraiment une fonction tout à fait particulière.
Et finalement, en fait, ce que tu dis, ça permet de comprendre un peu mieux ce que théorise Sylvia Wadley quand elle parle de semi-indépendance analytique des systèmes d'oppression. que finalement, effectivement, il s'agit de théoriser les ontologies de la race, du genre et de la classe, sans oublier que sur certains points, ces systèmes de pression sont interconnectés et que de les analyser de manière complètement libre, comme le souhaiterait une partie des post-structuralistes, n'a pas vraiment de sens, mais que finalement, à la fois d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue très pratique dans le droit, ces systèmes sont interconnectés.
Oui, alors justement, simplement pour préciser le concept d'ontologie, qui fait partie du vocabulaire technique de la philosophie, du coup, c'est pas le concept le plus puissant. Du coup, ontos, c'est l'être en grec, et logos, donc c'est le discours, et du coup, c'est un discours, c'est un peu un discours sur la réalité sociale dans ce cas-là. Et donc, ça peut être un discours qui va être unitaire, qui va dire tout découle du capitalisme, ou tout découle du racisme, ou tout découle du patriarcat. Un discours fragmentaire, on va dire, en fait, ça découle en partie du patriarcat, et puis en partie du racisme, et puis en partie du capitalisme. Et ça peut être aussi intersectionnel, en disant, ça découle de l'imbrication, de l'interrelation des trois. Mais après, c'est vrai que ce qui est intéressant chez Walby, c'est que dans l'intersectionnalité, on dit qu'il y a imbrication des systèmes de domination, mais on ne dit pas de quelle nature est cette imbrication. Est-ce que c'est une imbrication structurelle ou est-ce que c'est conjoncturel? Il y a plein de débats là-dessus. Rien que entre l'imbrication entre patriarcat et capitalisme, ça fait des débats gigantesques dans les années 70-80 entre féminisme matérialiste, féminisme marxiste. Mais ce qui est intéressant, je dirais, dans le concept de semi-indépendance analytique de Walby, c'est qu'elle dit, au niveau de l'analyse, il faut avoir, entre guillemets, une théorie du patriarcat et une théorie du capitalisme qui soient distinctes. Le capitalisme comme domination impersonnelle du marché, comme exploitation de classe, etc. Et le patriarcat comme domination de la classe des hommes sur la classe des femmes, comme exploitation domestique, sexuelle, reproductive, etc. Le fait de dire que c'est des systèmes distincts, ça a permis de sortir de la théorie unitaire qui permettait aux marxistes de dire « Non, mais en fait, finalement, le patriarcat, c'est uniquement un truc fonctionnel au capitalisme. Finalement, ceux qui bénéficient de l'oppression des femmes, c'est les capitalistes et pas les hommes. » Et ça a permis de sortir aussi de l'illusion, évidemment, que la révolution socialiste résoudrait tous les problèmes. Mais d'un autre côté, avec Sylvia Walby, on échappe quand même à l'idée que finalement, tous ces systèmes n'ont aucun lien structurel entre eux, et que c'est juste que, dans la réalité, ils se mélangent, mais sinon, ça n'a aucun sens. Puisque ce qu'elle dit globalement, c'est que il y a une partie du patriarcat et une partie du capitalisme et une partie du racisme qui s'interpénètrent d'une certaine manière. On peut bien parler d'un patriarcat raciste, d'un capitalisme raciste, de manière structurelle, et que sur certains aspects, patriarcat et capitalisme peuvent diverger. Par exemple, peut-être que le patriarcat aurait intérêt à ce qu'il n'y ait pas du tout de travail salarié des femmes, alors que le capitalisme a quand même intérêt à ce qu'il y ait du travail salarié des femmes. Mais là où ils se retrouvent, et c'est là où ils sont structurellement liés, c'est que, en fait, les deux ont finalement intérêt à ce que les femmes fassent une double journée avec un travail salarié à mi-temps ou de toute façon déqualifié, dévalorisé. Et finalement, tout le monde s'y retrouve. Et c'est un petit peu d'ailleurs ce que montre Sylvia Walby, une espèce de compromis qui se forge au 19e siècle en Angleterre entre capitalisme et patriarcat, qui fait que, du côté du capitalisme, les intérêts des capitalistes sont satisfaits parce qu'ils ont de la main-d'œuvre féminine. Mais d'un autre côté, pour le patriarcat, cette main-d'œuvre féminine ne gagnera pas suffisamment d'argent et aura un travail suffisamment dévalorisé et déqualifié pour qu'en fait, les femmes ne soient pas capables d'être indépendantes économiquement des hommes. Et justement, puisqu'on parle de Sylvia Walby et de semi-indépendance analytique, alors peut-être pour préciser, du coup, ça veut dire que là, on raisonne au niveau des grandes théories. Évidemment, ce que Sylvia Walby dit, c'est que au niveau des grandes théories, il faut donc ce modèle un petit peu d'indépendance, mais en même temps d'imbrication des systèmes d'oppression, et qu'après, dans la réalité, évidemment, tout se mélange, entre guillemets. Et là, ça nous amène, évidemment, à la critique de l'intersectionnalité qui a été formulée par Danielle Kergoat et Elsa Galeran, et aussi une autre féministe québécoise, en termes de consubstantialité des rapports sociaux. Alors, on a utilisé ce concept
Donc il est emprunté à la théologie pour faciliter les choses. On comprend pourquoi ce concept a aussi moins bien marché, parce que se dire « moi je suis consubstantialiste », c'est quand même un peu ridicule par rapport à se dire « je suis féministe intersectionnel », c'est quand même plus simple. Mais au-delà de ça, bon, globalement la critique que font donc Kergoat, Juteau et Galleran de l'intersectionnalité, c'est que finalement ce serait pas assez dynamique, ça continuerait de séparer les systèmes d'oppression... Que finalement, tout ça avait déjà été théorisé par les féministes françaises dès les années 70-80. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, d'une part, ces critiques réduisent beaucoup l'intersectionnalité à sa caricature post-structuraliste. D'autre part, c'est très séduisant de dire, en fait, les rapports sociaux sont consubstantiels, on ne peut jamais les séparer. Mais, bon, d'un point de vue théorique, dire tout est dans tout et réciproquement, même si, évidemment, elles se défendent de dire ça, mais dire tout est dans tout, tous les rapports sociaux se mélangent, se coproduisent, s'imbriquent, c'est intéressant, mais pour analyser la réalité sociale, c'est pas très utile, quoi. À la limite, il vaut mieux le modèle de Walby, qui est quand même beaucoup plus pertinent, qui permet à la fois de montrer la complexité de la réalité, et en même temps d'avoir quand même des théories du patriarcat, du capitalisme, qui sont un petit peu claires et distinctes, parce que finalement... Moi, je soupçonne un petit peu que cette critique marxiste de l'intersectionnalité, ce soit encore finalement une manière de dire que finalement la classe, c'est quand même plus important. C'est pas dit, mais c'est vrai qu'il y a quand même, on peut avoir un peu ce sentiment qu'au moins la classe et puis éventuellement le genre, c'est quand même plus important. Et c'est vrai que dans la manière dont Kergoat a théorisé la consubstantialité, même si elle dit que finalement elle avait tout dit avant l'intersectionnalité, fort est de constater que la race, elle l'avait oubliée. C'est juste qu'elle l'a rajoutée après, quand il a fallu, après l'intersectionnalité.
Mais peut-être que si on rapproche le développement de la consubstantialité avec l'histoire du développement de l'intersectionnalité et qu'on prend en compte l'absence de point de vue situé de femmes racisées au moment du développement des théories consubstantielles, simplement par ça, on pourrait dire que l'intersectionnalité était nécessaire dans le sens où il a fallu, en 80, la publication de Femmes, Race et Classe et de Ne suis-je pas une femme, pour développer une histoire des femmes noires, et qu'ensuite, ces femmes noires, dont le point de vue situé n'était, encore une fois, pas apparent chez les féministes blanches françaises, aient pu théoriser à leur tour leur intersectionnalité. Et si, effectivement, il y a peut-être certains points qui se recoupent avec la consubstantialité, le fait est que la race n'était pas, à leur sens, suffisamment développée pour couvrir leur réalité sociale.
Oui, d'ailleurs, juste simplement pour un point, c'est intéressant de voir que Daniel Kergoat, dans une note de bas de page d'un de ses articles dans Actuel Marx sur la consubstantialité des rapports sociaux, dit que elle a expérimenté d'une certaine manière la consubstantialité des rapports sociaux quand elle était sociologue et militante ouvrière, en disant qu'elle n'arrivait pas trop à séparer ce qui relevait de la dimension de classe et de la dimension de genre. Sauf que ça fait 2, et ça fait pas 3, et ça fait encore moins 4, etc.
Et ce qui est intéressant, en fait, là où ces analyses-là sont intéressantes, c'est qu'elles présentent vraiment explicitement certaines difficultés, certaines confusions qui sont liées au concept d'intersectionnalité. Par exemple, les politiques de production du savoir. Donc, le fait que le savoir en France ou le concept de race n'était pas un concept prévalent sur le plan analytique, mais qu'il l'était aux États-Unis ou bien en Grande-Bretagne, et que c'est là que les productions de savoir intersectionnelles, avec la racialisation comme élément constitutif, se sont développées. Alors qu'en France, on a bien plus un féminisme matérialiste, et c'est d'ailleurs le grand reproche des féministes intersectionnelles noires, américaines, britanniques, etc., par rapport au féminisme atlantique ou au féminisme européen, c'est l'oubli de cette dimension centrale qu'est la race.
Mais même au sein, je dirais, de la France, au sein des mouvements, du mouvement de libération des femmes en France, la race était clairement laissée pour compte. Et du coup, dans le développement du féminisme français, il était blanc de facto. Et du coup, forcément, ça revient tout à fait ce que tu dis.
Et là, on peut avoir presque une espèce d'explication matérialiste un petit peu de ça, dans le sens où, aux États-Unis, le mouvement de lutte des femmes noires a été beaucoup plus visibilisé et important par rapport à en France, où il y a bien eu un mouvement, même plusieurs mouvements de femmes racisées qui ont été complètement marginalisées et oubliées d'ailleurs, alors qu'il y avait déjà eu quand même des productions un petit peu théoriques là-dessus.
C'est pour ça que je dis l'absence du concept de race sur le plan analytique, parce que sur le plan militant, effectivement, il y a eu des mobilisations qui ont été, comme tu dis, marginalisées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point certaines hégémonies jouent un rôle dans l'effacement ou la découverte, entre guillemets, de certains savoirs. Donc, par exemple, la couleur que va prendre l'intersectionnalité en France n'est pas du tout la même à cause des rapports sociaux et des hégémonies que celle que l'intersectionnalité va prendre en Grande-Bretagne, par exemple.
Et même, je pense que le rôle de l'État, la France, telle une république une et indivisible qui refuse le mot race, a carrément participé de l'invisibilisation des productions théoriques dont tu parlais tout à l'heure. Parce que finalement, au même moment, aux États-Unis, ces productions théoriques voyaient le jour, mais dans une optique, enfin dans un contexte où il y a l'affirmative action, où il y a des sit-ins au sein des universités, et du coup il y a une visibilisation qu'on n'a pas en France, parce que justement en France, les études en termes de race n'intègrent pas et n'intègrent jamais, enfin jusqu'à très récemment, l'université, alors qu'elles intègrent les universités américaines au même moment. Et du coup je pense que même le contexte politique et la manière dont la question est gérée politiquement est cruciale.
De même, juste pour ajouter que la récupération du mot race par tous les extrémismes d'extrême droite, de droite et d'extrême droite, en France mais aussi plus largement en Europe, ce qui rend encore plus ambivalent l'usage du terme race sur le plan analytique pour dénoncer le racisme dans l'organisation et de nos institutions et de notre société.
Finalement, la société américaine est tellement organisée de manière explicite autour de la race, donc il y a des statistiques raciales, etc. Finalement, ça a évidemment des désavantages pour les populations racisées, mais là, pour le coup, ça a eu un avantage, c'est que c'était une notion presque acceptée socialement, de manière générale et explicite, le fait qu'il y avait des races, même si c'est dans un sens biologisant et naturalisant, mais au moins ça a permis notamment l'existence d'affirmative action, donc de la discrimination positive, qui a permis du coup, dès les années 60-70 surtout, à des femmes noires, souvent d'origine prolétaire, d'accéder à des postes dans l'université, des postes de chercheuses ou de professeurs, et du coup elles ont pu développer ensuite des théories qui ont créé un gigantesque corpus de réflexion critique qui a aussi irrigué les milieux militants, qu'il n'y a pas eu en France, parce qu'en France, précisément, la société n'est pas organisée explicitement autour de la race, même si, de facto, la société française est structurellement raciste, et qu'il y a bien des races au sens de populations, de groupes sociaux qui sont à une certaine place dans la société, dans une certaine place dans la division du travail, etc., en vertu de leur race, entre guillemets. Et bien précisément, le fait que la société française, finalement, ait mis sous le tapis un petit peu sa dimension raciste et finalement laissé le concept de race uniquement à la droite et à l'extrême droite, ça fait que finalement, la gauche républicaine, quand on aborde la question du racisme structurel ou de la race, crie, voilà, s'effraie, dit nazisme, etc. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que la société en son ensemble peut influencer jusqu'aux militants d'extrême gauche les plus anticapitalistes, puisqu'il y a des militants d'extrême gauche anticapitalistes qui ont exactement le même réflexe que des bons républicains libéraux de gauche quand ils entendent le mot race. Et finalement, peut-être pour conclure sur cette question de la consubstantialité des rapports sociaux, de la critique de l'intersectionnalité de Kergoat, de Juteau et de Galeran, on peut se dire, est-ce que finalement c'est pas lié à une vieille hostilité entre les milieux académiques français et les milieux académiques américains, y compris dans le champ féministe. Il y a un petit peu, les critiques de Kergoat et de Galeran, même s'il y a des choses intéressantes dans leurs articles, et que ça pointe certaines limites d'une partie de l'intersectionnalité, il y a un peu une forme presque de jalousie à l'égard du succès de la théorie de l'intersectionnalité, qui est évidemment infiniment plus reprise que celle de la consubstantialité. Et sur certains aspects, du coup, un côté un petit peu, on enfonce des portes ouvertes, on dit des choses qui en fait ont déjà été dites avant ou déjà dites mieux aux États-Unis.
C'est intéressant ce que tu dis parce que ça renvoie à ce que Bourdieu et Vacant disaient sur l'invention des concepts en Europe, leur export aux États-Unis, leur relabellisation entre guillemets et leur réexportation vers l'Europe comme des produits neufs de savoir scientifique. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est un tout petit peu caricatural de présenter les choses comme ça parce que les échanges, surtout les échanges culturels et les échanges de savoir, sont jamais unilatéraux. Donc c'est-à-dire que c'est difficile d'établir un lignage vraiment linéaire de l'intersectionnalité, de son émergence, de ses trajectoires, mais plutôt en fait je pense qu'on pourrait concevoir ce concept qui est désormais un concept globalisé, il faut bien le dire, comme quelque chose de foisonnant, une dynamique un peu multifocale avec différents épicentres et donc des couleurs différentes par rapport au contexte géographique, politique, de production de ces différentes pierres de l'édifice qui est devenue l'intersectionnalité. Donc certes, il y a cette vieille jalousie franco-états-unienne qui joue certainement un rôle, mais je pense qu'au-delà de ça, l'histoire et la trajectoire est bien plus complexe et n'est pas du tout unidirectionnelle, mais bien plus en termes d'échange.
Oui, bien sûr. Enfin, pour prendre un autre exemple, il suffit de voir les allers-retours de la théorie féministe dans les années 70. Les féministes françaises sont inspirées par le mouvement de libération des femmes aux États-Unis. Et Christine Delphi va s'inspirer un petit peu de ce qui est déjà produit aux États-Unis. En même temps, ensuite, les féministes américaines vont beaucoup s'inspirer des travaux de Christine Delphi qui vont être rapidement traduits. Et puis ensuite, il va y avoir un débat intercontinental. Donc effectivement, comme tu dis, il n'y a jamais de... On ne peut pas dire que les Américains ont tout piqué aux Français, aux Françaises. C'est évidemment extrêmement réductionniste.
Et on oublie toutes les contributions postcoloniales au concept d'intersectionnalité qui ont été très très importantes aussi dans son développement.
Oui, d'ailleurs, c'est un des articles du numéro des cahiers du CEDREF sur intersectionnalité et colonialité mettait en perspective des critiques de certaines féministes intersectionnelles, par exemple du Brésil ou d'Amérique latine, sur une certaine forme d'ethnocentrisme des États-Unis, c'est-à-dire que finalement, toute l'intersectionnalité viendrait des États-Unis et devrait se calquer, alors qu'évidemment, il y a des productions théoriques de théories intersectionnelles ailleurs qu'aux États-Unis, et en France d'ailleurs, ailleurs qu'en Occident, entre guillemets, et que évidemment l'intersectionnalité n'est pas utile simplement, il faut vraiment le dire clairement, pas utile simplement aux femmes noires prolétaires aux États-Unis, mais aussi aux femmes racisées en France. Là, ça, il commence à y avoir quand même pas mal d'études intersectionnelles des femmes racisé en France, mais c'est vrai qu'il y a quand même un retard en tout cas en France là-dessus sur les groupes militants qui peuvent s'emparer de ce concept, et aussi dans la production théorique, il n'y a pas encore énormément d'études intersectionnelles en France qui visent du coup, qui essayent d'appréhender le vécu des femmes racisées en France, mais ça commence, le dernier numéro des cahiers du CEDREF justement s'intéresse un petit peu à pas mal d'études de cas justement de vécu intersectionnel en France. Et bien là-dessus, après cette longue discussion, nous allons faire une pause musicale avant d'aborder dans la troisième partie à la fois la question des usages militants pertinents de l'intersectionnalité, donc ce sera un petit peu programmatique entre guillemets, et puis un petit peu essayer de synthétiser tout ce qu'on a dit à un niveau théorique.
Girl, a bitch, you're a hoe. Trying to make a sister feel low. You know all of that got to go. Now Everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring crap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block. I had my cutoff shorts on, right? Cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said,
yeah, me bitch.
And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. I punched him dead in his eyes, said,
who you calling a bitch?
I guess I fell so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had. And I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man's don't really love you if he hits you. Yeah. This is my notice to the tool, I'm not taking it no more. I'm not your personal whore, that's not what I'm here for. Ain't nothing good gon' come to you till you do right by me. Brother, you wait and sit in the bitch.
Donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, dans une émission de Sortir du patriarcat, capitalisme, une critique radiophonique du patriarcat, du sexisme et des oppressions liées au genre et aux sexualités, et ce dans une perspective intersectionnelle, anticapitaliste et antiraciste. Et nous parlons toujours d'intersectionnalité, justement, avec Raphaëla et Sophia. Et nous abordons la fin de l'émission avec une troisième partie courte et incisive, où nous allons principalement nous concentrer sur les usages militants de l'intersectionnalité aujourd'hui. Et avant ça, simplement faire un petit récapitulatif des deux parties précédentes en termes de qu'est-ce que du coup on peut tirer à un niveau théorique de l'intersectionnalité. Alors, très rapidement, ce que je dirais, c'est que il faut une intersectionnalité qui soit plutôt matérialiste, fondée voilà, sur les rapports de domination concrets, mais qui en même temps puisse aussi s'enrichir d'apports issus des théories post-structuralistes en termes de discours, d'idéologie, d'identité, etc. Que ce soit une intersectionnalité qui est évidemment sensible aux dynamiques. Donc évidemment, il ne s'agit pas de transposer la théorie de l'intersectionnalité juridique au champ social, puisque évidemment, la société évolue très rapidement. Donc il faut être sensible assez dynamique. Une intersectionnalité également qui soit contextualisée, c'est-à-dire, évidemment, il ne s'agit pas de dire que le vécu des femmes racisées est partout le même dans le monde. Il faut des études plus spécifiques, comme par exemple celle de Evelyn Nakano-Glenn sur le cas des différentes... Elle fait une étude un petit peu comparée des femmes racisées prolétaires dans le travail domestique à différents endroits aux États-Unis. Et elle montre bien du coup que la situation n'est pas complètement identique. Également, une intersectionnalité, disons, qui pense l'imbrication des rapports de domination de manière assez proche de celle de Sylvia Loualbi. Et voilà, finalement, une intersectionnalité qui pense avant tout en termes de rapports sociaux de domination, même si ça n'exclut pas que, et évidemment, une approche aussi en termes d'identité, puisque les identités elles-mêmes sont aussi le produit de rapports sociaux de domination. Donc, maintenant, passons à la question des usages militants. Alors, on a beaucoup, dans la première et la deuxième partie, critiqué les mauvais usages militants de l'intersectionnalité. On a aussi critiqué les accusations un peu fallacieuses, les projections fallacieuses d'une partie des militants envers l'intersectionnalité, en lui reprochant des choses qui finalement se sont avérées relativement fausses ou au moins partiellement fausses. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, qu'est-ce qui existe aujourd'hui de pertinent comme usage de l'intersectionnalité dans les mondes militants, si on est dans une perspective plus globale? Et aussi du coup dans le cas de la France, et puis aussi qu'est-ce qui pourrait également être intéressant pour des militants et des militantes, en l'occurrence en France, enfin qu'est-ce qui serait intéressant comme usage de l'intersectionnalité pour ces militants et ces militantes qui voudraient s'en emparer.
Alors de mon côté, je proposerais peut-être de définir deux manières ou deux lignes directrices par lesquelles l'intersectionnalité peut être utile au militantisme et aux organisations, aux mouvements sociaux, en France mais aussi ailleurs. Donc la première, ce serait l'intersectionnalité comme un outil de visibilisation politique. Donc d'utiliser l'intersectionnalité pour constituer des groupes qui révèlent certaines identités intersectionnelles, donc par exemple des communautés queer au sein des communautés musulmanes, donc par exemple il y a un groupe qui existe aux Pays-Bas, ou bien l'afroféminisme, ou bien je connais une association en Italie de migrants LGBT, donc de former des groupes pour permettre à certaines populations de se constituer en mouvement politique et de donner de la visibilité à leur cause. Donc ça, ce serait la première définition d'un usage possible de l'intersectionnalité comme outil organisationnel et militant. Le deuxième outil ou la deuxième approche, ce serait d'utiliser l'intersectionnalité de manière beaucoup plus large comme une approche théorique, analytique des problématiques de manière transversale pour un groupe militant, un groupe de travail ou un mouvement social. Donc ce serait d'analyser des problématiques qui sont propres au groupe, par exemple un groupe féministe, de les analyser de manière intersectionnelle et de manière systématique pour avoir une approche de ces problématiques et de ces enjeux qui soit véritablement inclusive, solidaire et qui permette de penser l'interdépendance des mouvements féministes avec d'autres groupes. Et donc poser aussi les fondations d'une coopération future beaucoup plus importante que certains isolements qu'on peut observer aujourd'hui dans les mouvements militants.
Mais finalement, il pourrait s'agir d'un espèce de positionnement théorique des militants, enfin pro-intersectionnalité, dans le sens où il s'agirait de toujours partir avec le présupposé que, enfin, on prend en compte les points de vue situés des interlocuteurs qu'on aurait face à soi, et du coup ce positionnement théorique serait de facto adopté contre un espèce de positionnement théorique qu'on a plus ou moins aujourd'hui, qui est plutôt de voir ça comme contraire à une lutte collective et plutôt comme une espèce de fragmentation de la lutte, et au contraire d'adopter en adoptant un positionnement théorique intersectionnel, on élargit les acteurs de la lutte plutôt que de diviser la lutte elle-même.
Oui, ça c'est intéressant justement sur cette question justement des questions d'alliance, de convergence, de coordination des luttes. C'est vrai que dans les années 70, dans Nos Amis et Nous, Christine Delphi avait proposé une interprétation radicalement différente que celle qui prévalait dans le mouvement ouvrier dominant. Le mouvement ouvrier dominant disait aux féministes mais en fait, soit vous êtes avec nous, soit vous divisez la lutte. Et en fait, ce que Christine Delphi a argué, c'est que il peut y avoir des alliances entre le mouvement ouvrier et le mouvement féministe, mais il faut que ce soit une alliance où chaque protagoniste, entre guillemets, de l'accord accepte de reprendre à son compte les revendications de l'autre. Donc, Christine Delphi disait, d'accord, on veut bien être anticapitaliste, d'ailleurs, bon, en l'occurrence, une bonne partie du MLF l'était, mais il faut que le mouvement ouvrier, lui aussi, reprenne les revendications du mouvement féministe. Et simplement, je pense que c'est toujours quelque chose de valable. Simplement là, ça s'élargit, puisque dans le mouvement féministe, il faut penser la question, par exemple, de l'alliance entre les féministes blanches et les féministes racisées. Et pour que cette alliance se fasse, il faut non pas invoquer, comme on pouvait le faire avant, le sujet femme qui fait que il faudra en fait que les féministes racisées se rallient sans condition aux féministes blanches, acceptent de mettre leurs oppressions spécifiques sous la table, mais que cette alliance se fasse sur des bases égalitaires, c'est-à-dire que les féministes blanches aussi s'attaquent à leur propre racisme, au racisme en général, etc. etc. Et donc simplement, j'ai l'impression que l'intersectionnalité, ce n'est pas un outil de division et de fragmentation des luttes, c'est simplement un outil qui complexifie un petit peu plus la question de l'alliance, mais cette question de l'alliance, de toute façon, elle était de toute façon indispensable. Sinon, on retombe dans des schémas unitaires où les revendications des femmes blanches sont prises pour les revendications de toutes les femmes, et donc les revendications spécifiques des femmes racisées passent à la trappe, tout comme dans le mouvement ouvrier, les revendications spécifiques des femmes passaient à la trappe, puisque le mouvement ouvrier, de facto, historiquement, a principalement défendu, même si c'est un crime de lèse-majesté peut-être de le dire, les intérêts principalement des hommes blancs ouvriers. Et donc l'intersectionnalité, c'est essentiel pour bâtir un mouvement social qui est capable de rallier un très large nombre, parce que, en fait, et c'est pour ça que dans les groupes militants d'extrême-gauche, il y a si peu de femmes et si peu de personnes racisées et si peu de femmes racisées, encore plus, c'est aussi parce que ces groupes militants sont souvent incapables de reprendre à leur compte les combats spécifiques de ces personnes. Et même s'il y a une charte antisexiste et antiraciste, ça ne suffit pas pour une politique d'alliance entre guillemets intersectionnelle. Il faut que les militants blancs, éventuellement ouvriers ou pas, peu importe, reprennent à leur compte, disons, les perspectives de lutte intersectionnelles, si ils veulent pas simplement que la lutte anticapitaliste, en l'occurrence, soit simplement une lutte d'hommes blancs d'origine de classe moyenne et ou prolétaire, quoi. Et par rapport à ça, par rapport à la question de l'approche politique et théorique, qui était ton deuxième point, ça me faisait penser à la question de l'analyse des mouvements sociaux. C'est-à-dire que les groupes militants, dans les périodes de mouvements sociaux, produisent des analyses de ces mouvements sociaux, et souvent, ces analyses de mouvements sociaux sont pas du tout intersectionnelles. Alors, la caricature, évidemment, c'est par exemple lundi matin qui ne prend même pas en compte la question de la classe, qui prend simplement l'affrontement entre une espèce de foule qui n'a aucune caractéristique sociale et le pouvoir incarné par la police. Bon, dans les analyses marxistes, on va prendre en compte la classe, mais en réalité, ce qu'il faut, c'est prendre en compte toutes les dimensions, et notamment, c'est ce qui avait été fait dans une brochure en 2016 sur la loi travail, où il y avait eu le fait que, en fait, cette loi travail allait peser encore plus sur les femmes, puisque la double journée allait s'allonger, que la flexibilisation nuisait encore plus aux femmes, les temps partiels imposés, etc. Et il y avait également une dimension, si je me souviens bien en tout cas, de prise en compte aussi des questions de race, puisque on sait que les femmes qui, prolétaires qui occupent les emplois les plus précaires, les plus mal payés, les plus aux horaires les plus impossibles, les emplois les plus dévalorisés, sont des femmes prolétaires racisées. Et du coup, il faudrait qu'il y ait que les militants et militantes se mettent systématiquement à produire des analyses des mouvements sociaux qui soient intersectionnelles, simplement pour une meilleure intelligibilité de la situation, et aussi pour essayer de mobiliser, pas simplement, et ça c'est un des gros problèmes des mouvements sociaux, et celui de 2018 n'y a pas fait exception, de mobiliser autre chose que les étudiants blancs de classe moyenne dans les universités. Il y a un problème par rapport à ça, et une perspective intersectionnelle permettrait de résoudre à la fois des problèmes d'analyse et des problèmes de mobilisation.
Et peut-être enfin on pourrait rappeler que si au sein des mouvements sociaux les femmes ont dû se séparer du mouvement ouvrier et les femmes racisées ont dû se séparer du mouvement des droits civiques aux États-Unis, c'est parce que la division de la lutte était déjà là, parce que c'était des mouvements sexistes l'un et l'autre. Et du coup, peut-être plutôt que de jeter l'opprobre sur les populations qui sont intersectionnellement opprimées, peut-être pointer du doigt les groupes militants eux-mêmes qui oppriment ces individus et qui refusent de reconnaître leur oppression pourrait être un premier pas.
Oui, non, ça c'est clair. C'est vrai que c'est vraiment scandaleux que le mouvement ouvrier blanc ait pu accuser les féministes, mais aussi les gays, les lesbiennes, et aussi les personnes racisées, de diviser la lutte, alors qu'en réalité, le plus grand facteur de division des luttes, c'est lorsque le mouvement social reproduit les rapports de domination en son sein, et lorsque, en l'occurrence, le groupe dominant des mouvements sociaux, qui est un groupe dominant dans la société, alors pas sur tous les plans, à part, mais en général, sur tous les plans, à part celui sur le plan de la classe, lorsque ce groupe dominant, donc, reproduit les rapports de domination. Et évidemment, cette reproduction des rapports de domination, elle conduit le mouvement social à finalement ne plus défendre que des intérêts extrêmement particuliers. Et c'est là où on voit le renversement du particulier et de l'universel. C'est-à-dire que les ouvriers blancs ou les hommes blancs de classe moyenne prétendent représenter l'universel, alors qu'en réalité, les mouvements sociaux qui sont focalisés uniquement sur la satisfaction de leurs propres intérêts sont les mouvements les plus spécifiques, les plus partiels et les plus non-universels qui soient. Et c'est précisément un mouvement qui prendra en compte les intérêts intersectionnels de l'ensemble des groupes sociaux qui pourrait vraiment se prétendre universel, entre guillemets. Et donc finalement, il faut inverser cette espèce d'accusation de la division de la lutte. En réalité, ce sont souvent les hommes blancs de classe moyenne ou d'origine populaire qui divisent la lutte en refusant de remettre en cause leurs privilèges liés à la race et au genre, et en reconduisant les rapports de domination, qui fait qu'après, ce sont les mêmes qui vont s'étonner que, étrangement, ils ne sont qu'entre hommes blancs dans les groupes militants. Après, sur la première partie de l'intersectionnalité, sur les outils de visibilisation politique, simplement pour dire qu'il y a déjà je voulais simplement mentionner trois groupes qui sont déjà constitués justement de manière intersectionnelle, qui sont les Lesbians of Colors, le groupe queer et trans racisé, qui maintenant est devenu queer et trans révolutionnaire, et également la revue et le groupe transféministe matérialiste, qu'on espère aussi inviter, justement pour parler de leur expérience intersectionnelle propre et de qu'est-ce que ça produit comme effet pour repenser la critique sociale et l'émancipation. Donc, je vous remercie, Sophia et Raphaëlla, et on remercie également les auditeurs et les auditrices qui auront survécu à ces 2 heures d'émission qui, j'espère néanmoins, auront été enrichissantes et utiles.
Merci.
L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, hein, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat, patrie, patriarcat.